Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et pourtant, elle tourne. Phrase célèbre dite dans une cité pendant une tournante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde. Et pourtant, elle tourne. En vrai, c'est le titre d'un projet Arte pour prouver que les femmes aussi savaient faire des courts-métrages. Et le projet s'appelait Et pourtant, elle tourne.
Et pourtant, ça commence bien.
Et je me suis dit, waouh, certes, il y a une référence historique. Mais quelque part, quand même, il y a un truc un petit peu de tournante et je trouve ça un peu chelou.
C'est quoi? Pourquoi « et pourtant » ?
Et pourtant, elle tourne. C'est le gars qui a
Galilée.
Dit... Galilée qui a dit que la Terre, elle tournait autour du Soleil. Et alors que la religion ne voulait pas.
Ah oui.
Et c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre.
Et donc, il dit « et pourtant ».
Alors, et en plus, il ne l'a jamais dit. C'est une phrase célèbre qu'on lui dit, et qu'on dit qu'il a dit, et je crois qu'il ne l'a jamais dit. Bref. Voilà, c'est histoire d'en rire. Comme vous pouvez le voir, on parle d'histoire et on essaye d'en rire. Et cette intro était un petit peu moyennement drôle, un petit peu moyennement historique. Ça tombe bien, c'est tout le sujet du podcast. Je suis avec Eleanor Jenkins.
Coucou tout le monde.
Coucou, Ariel Bitume.
Salut les petits poteaux, les petits oiseaux, les petits... pardon.
Les petits clous même, petits tu peux clous. Dire. Peut-être et Benjamin qui
salut.
Est avec nous. Abonnez-vous, hein, mettez-nous 5 étoiles, vous allez voir, c'est super drôle. On est là toutes les semaines. C'est un podcast hyper bien que vous pouvez trouver sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube même. Hein, voilà, plein de choses. Mais on commence tout de suite l'émission avec notre invité. Notre invité qui n'est pas là d'ailleurs. Benjamin, pourquoi notre invité n'est pas là?
Parce qu'elle est morte.
Oh non, non.
Elle est morte de façon un peu con-con quand même.
Ah ouais?
Eh oui.
Elle est tombée dans un bûcher, elle a brûlé, Jeanne d'Arc.
Non, c'était au début du XXe siècle. Parce qu'au début du XXe siècle, Marie Curie a eu l'idée un peu fofolle et s'est dit « Et si je touchais des trucs radioactifs pour voir ce que ça fait ?» Et on lui disait « Non, ne touche pas des trucs radioactifs, c'est dangereux. » Non, je déconne, personne ne lui disait ça, car la radioactivité n'était pas quelque chose de très connu scientifiquement à cette époque-là. Pour vous dire, à l'époque, et c'est vrai, on utilisait les rayons X dans les foires pour faire des spectacles de magie. Donc au lieu de faire apparaître un lapin, on faisait apparaître une tumeur. Bref, au début du XXe siècle, les gens se prenaient des rayons ionisants dans la gueule pour le fun. C'était un peu leur TikTok challenge à eux. Bon, il y avait moins de danse et beaucoup plus de cancer, mais bon, au moins ils n'avaient pas à danser. La radioactivité, c'est ce qui a tué Marie Curie. Ceci dit, elle a gagné 2 prix Nobel pour ses travaux, l'un de physique, l'autre de chimie. Donc si on pèse le pour et le contre, franchement c'est pas mal. Personnellement, pour gagner un prix Nobel, je serais capable de faire des trucs insensés aussi. Si on me demandait par exemple de plonger ma main dans la lave pour voir ce que ça fait, et qu'en échange j'avais un prix Nobel, ok. Non, c'est faux, je le ferai pas. Car contrairement aux gens du début du XXe siècle, j'ai un minimum de connaissances. Par exemple, je sais que la lave est super chaude et que ça me brûlerait la main. Pareil, si on me demandait de toucher des trucs radioactifs, je dirais non, je sais que c'est dangereux. Donc d'une certaine manière, je suis un peu plus intelligent que Marie Curie. Pourtant, je n'ai aucun prix Nobel. C'est pourquoi je vais utiliser ce temps de parole pour m'adresser au jury du prix Nobel et les convaincre de m'en donner un, n'importe lequel. Enfin non, pas le prix Nobel de la paix, ça m'intéresse pas, il est nul celui-là. T'as des prix scientifiques de ouf, comme celui de la physique ou de la médecine, et à côté, t'en as un qu'on donne à quelqu'un parce qu'il a fait ES au lieu de S au lycée. Le prix Nobel de la paix, c'est un peu le pouvoir du cœur d'un Captain Planet. Il est là, mais bon, on préférerait tous avoir le pouvoir du feu ou du vent. Mais je me rends compte en fait que je ne sais pas parler suédois, donc je peux rien faire. Et que non, aussi invraisemblable que ça paraisse, il s'avère que je ne suis pas plus intelligent que Marie Curie, qui, elle, a révolutionné les sciences. Je pense donc tous et toutes, on peut être impressionnés par mon humilité et ma facilité à me remettre en question. Je pense que s'il y avait un prix Nobel de modestie, je gagnerais face à Marie Curie. Voilà. J'espère que vous en avez un peu appris sur l'histoire.
Merci, Benjamin. Eh bien, sache que je n'avais pas prévu cette question. Cette question a été prévue pour plus tard. Mais du coup, je la demande maintenant. Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques?
Je sais.
Parce que
elle l'a trompé.
Parce que ouais, elle l'a trompé avec la femme d'Alfred Nobel.
Elle l'a trompé. Un point pour tout le monde.
Avec un mathématicien.
Avec un prof de maths.
Mais c'est marrant parce que comme j'ai fait un truc sur Marie Curie, je suis allé sur le prix Nobel, la page du prix Nobel, et en fait c'est un peu une légende urbaine. Okay. Parce qu'en fait le mathématicien avec qui elle l'aurait trompé, en fait c'était pas vraiment la même époque, et ils étaient pas dans les mêmes villes, donc ça avait rien
c'est
à voir.
C'est un peu faux.
Ouais.
D'accord. Ok, bref, à savoir que Nobel quand même a créé les prix Nobel, parce que le mec, il a gagné de l'argent, il est devenu célèbre en inventant des armes et de la dynamite. Et du coup, avant de mourir, il a fait j'aimerais bien racheter un petit peu mon nom. On va faire le prix Nobel de la paix. C'est le mec qui a créé la dynamite, hein, quand même.
Ouais. C'est comme Goncourt, hein, je crois qu'il y a.
Il brûlait des livres, oui. Et à la fin de sa vie, je devrais faire un prix pour les livres.
Je m'avancerai pas, mais je crois qu'il a une petite sale histoire aussi. Hein.
Eh bien, écoute, on cherchera. Ouais. On va chercher. Dans les années 60, je pose des questions, hein, et forcément, celui qui a le moins de points, il nous raconte une honte de son enfance. Dans les années 60, qu'est-ce que la Roumanie a échangé à d'autres pays en échange d'argent et de paillettes de sperme de porc?
Voilà, c'est devenu un acte hyper spécifique.
Oui, ah, ils avaient besoin de paillettes de porc.
Des châteaux.
De sperme de porc.
Des armes.
Oui, du sperme. Des paillettes de sperme.
Leur château. Non. La Transylvanie.
Non.
Des arbres.
Des vampires.
Ah, c'est les Roumains qui avaient besoin de...
Les Roumains ont échangé avec d'autres pays.
Ouais.
Quelque chose.
Ouais.
En échange d'argent et de paillettes de sperme de
porc.
Quand
tu dis argent, le métal ou l'argent, la monnaie?
La monnaie, la monnaie, le clinquant.
Eux, ils voulaient de l'argent.
La caillasse.
Et du sperme de porc. D'accord. Et ils leur refilaient quelque chose.
Quelque chose. Qu'est-ce que c'est la chose qu'ils leur refilaient?
Des ovules.
Qu'est-ce que la Roumanie avait à ras-bord dans les années 60?
Des nains?
Non.
qu'est-ce qu'ils avaient en... Pour moi, je pense à Roumanie, surtout à cette époque-là, je pense au château, quoi. Des pierres?
Non.
De la pierre, non?
Non.
Ils ont détruit.
C'était quand?
En 1960.
Mais ils avaient, s'ils voulaient des paillettes de sperme de porc, en fait, ils avaient plein de truies.
Ouais. Donc ils donnaient des truies en échange de paillettes de sperme de porc. Et
pour pouvoir...
ils n'avaient pas les truies, ils avaient le sperme. Après, ils ont dit bon, on va pas échanger pour avoir. Non.
C'était communiste à l'époque.
Je crois, ouais.
C'était quand?
Dans les années 60.
Des productions.
Trois fois.
Des productions animées de très mauvaise qualité.
Bon, non.
Non.
Les années 60.
C'est quelque chose de matériel.
Non.
Ah, ça faisait partie du bloc.
D'immatériel.
Non.
Attends, non. La Roumanie, c'était les dictateurs. C'était
Ceausescu.
Ouais.
Mais alors, les années 60, je sais pas. Mais...
Des idées. Ah,
mais c'est des idées, non.
Non.
Un réseau de télécom.
Non. Cherchez, déjà, cherchez le qu'est-ce qu'on échange contre de l'argent et des paillettes de sperme de porc.
Du lait.
Non.
De la nourriture.
Non.
Des gens. Des femmes.
Non.
Des hommes, des travailleurs.
Des hommes et des femmes. Des enfants.
Des couples. Des familles.
Non.
Ils faisaient venir des familles.
Si, dis-le.
Des juifs.
Des juifs. Bonne réponse.
Sérieux?
En Roumanie, ils avaient énormément, après-guerre, de juifs que les Allemands avaient amenés, des juifs qui restaient dans leur pays. Et à un moment, ils ont voulu se moderniser. Sauf que le coût de l'agriculture était hyper élevé. Et à l'époque, il y avait l'Israël qui a été créé.
Ouais.
Et l'Israël cherchait à sauver les juifs après-guerre. Et la Roumanie a fait, attendez, vous voulez des juifs? Nous, on en a. Mais on veut des paillettes de porc et de l'argent. Et en fait, ça a été dénoncé il y a quelques années de ça, parce que ça a duré 10 ou 15 ans. Mais oui, des familles juives ont été sauvées. Parce qu'elles étaient en Roumanie, mais elles n'étaient pas hyper bien. Voilà. Elles ont été sauvées, troquées contre des porcs. Voilà.
Waouh, ok.
Voilà. C'est un truc historique à la merde.
Et ils faisaient quoi, des paillettes de sperme de porc?
Je pense qu'ils devaient engrosser les truies avec.
Bah oui, c'était pour créer de l'élevage. Ouais. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait, quoi. Qu'est-ce qu'une tombe cénotaphe? C-E-N-O-T-A-P-H-E.
C'est une tombe avec un décor, une sculpture
Non.
Ah, scénographie, tu t'es dit.
C'est...
Mais non, mais c'est pas loin, c'est une bonne réflexion. Mais
c'est un mausolée. Les mausolées comme dans les cimetières, c'est-à-dire une sculpture, enfin un bâtiment, quoi.
Non.
C'est une tombe avec personne de mort dedans.
Exactement, bonne réponse, Ariel, qui s'enflamme.
C'est une décorative.
C'est une tombe où on n'a pas retrouvé le corps de la personne. On sait que la personne est décédée, par exemple, un marin en mer. Ouais. Il va y avoir le nom sur la tombe, mais pas le corps à l'intérieur. C'est une tombe cénotaphe, une tombe sans corps.
D'accord.
Voilà. Éléanor.
Coucou.
Coucou, c'est le moment. Bravo Ariane, 2 points.
J'aurais pas raconté mon histoire de caca au Super U.
C'est à moi.
Oui, c'est ta rubrique. Raconte-nous les origines d'une expression.
Je cherche.
Ok, très bien. Elle est sur Wikipédia actuellement et en train de faire sa rubrique.
Raconte ton truc de Super U.
En attendant.
Vous connaissez l'expression de fil en aiguille?
Oui, c'est le nom du magasin de ma mère en Ardèche.
Ah bah tiens.
Ah bah tu vas être surpris, tiens.
La signification, ça veut dire qu'une chose en entraîne une autre. Oui. La suite logique, comme l'aiguille qui entraîne son morceau de fil derrière elle. Mais est-ce que vous connaissez le sens caché
Est-ce que c'est pas rentrer un truc dans une chatte, dans le chat
comme d'habitude, ouais. Comme d'habitude, j'ai envie de dire depuis le début.
Ouais.
C'est une expression qui date du 16e siècle et ça veut dire se faire sodomiser.
D'accord.
Ça mange pas de pain.
Tu pourras le dire à ta maman. L'expression exacte qui était utilisée est d'ailleurs.
Je trouve le contexte pour amener le sujet, mais ok.
L'expression exacte qui était utilisée d'ailleurs, sans faire filer une aiguillée.
Ah, d'accord. Ah oui, sans filer quoi. Ah, c'est génial que ma mère ait un magasin de couture qui donnait un.
Mais tout le monde le sait, hein, dans le village, que ça veut dire ça.
Et ma mère, elle comprenait pas pourquoi les gens arrivaient sans pantalon.
Ouais.
C'est pas, ils savent que je fais de la couture, mais quand même, on est le tissu. Tac, la bite. Merci beaucoup, Eleanor.
Ouais,
c'était clair et précis, là.
Ouais.
C'était pas le même site.
Vraiment direct. c'était plus clair, c'était mieux. Allez, on continue avec les questions. Je rappelle qu'il n'y a que Ariel qui a 2 points. Qu'est-ce que Cléopâtre a fait avec ses 2 frères?
Oula.
Oh. Elle les a tués.
Encore.
Quoi, encore?
Ça va être encore un truc de sexe.
Alors, peut-être, mais c'est pas le truc que je cherche.
Mais c'est vrai, elle les a fait assassiner.
Alors, je crois qu'il y en a un qu'elle a fait assassiner, l'autre est mort. Mais c'est pas ça que je veux.
Qu'est-ce qu'elle a fait avec ses 2 frères?
La même chose avec les 2. Du coup, je crois
elle
qu'elle
s'est mariée.
Exactement. C'était ses frères époux.
Ouais, bah, comme toutes les monarchies, hein, ils se mariaient entre eux. Hein.
Ouais.
Oh là là.
Les 2.
En même temps,
il y en a un qui est mort et l'autre a eu l'autre.
D'un côté, si on dit c'est dégueulasse, mais imagine, t'es pharaon, et on dit pour rester pharaon et d'être la personne la plus puissante sur tout le continent, tu vois.
Sur les 2.
Ouais. T'es genre, tu dois te marier avec ta sœur, tu fais ok, tu vois, genre ok.
Mais par contre, il disait que. Ils savaient pas s'ils avaient
consommé.
Ouais, en fait, c'était à l'époque, c'était
ouais, des alliances pour garder dans la famille, ouais, en fait, dans la lignée, enfin dans la dynastie.
C'est contractuel, c'est tout.
Voilà.
Changeons de type de dynastie. Le tsar Pierre Ier, le Grand, a imposé un impôt.
Ouais.
Mais lequel?
La gabelle.
Hein?
Le sel.
La gabelle.
Alors peut-être, mais un impôt rigolo.
Oui.
Sur le thé.
Sur la neige.
Non.
Est-ce que comme en Belgique, il y a l'impôt sur les rideaux?
Sur
les volets, non, sur les volets.
Sur les fenêtres.
Et du coup, ils n'ont pas de volets en Belgique parce qu'il y a un impôt dessus. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de volets.
Mais comment tu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rido, c'est horrible. Bon, en même temps, il fait nuit assez tôt. Et...
Oui, c'est vrai. C'est
en Angleterre, c'était à la fenêtre. C'est pour ça qu'il y a des fausses fenêtres. Mmh. Parce qu'il ne voulait pas payer l'impôt, alors il recouvrait les vraies fenêtres, il les murait.
Mmh.
Ah, donc, vu de l'extérieur, c'est une fausse fenêtre.
Parce que c'était sur de la bouffe?
Non.
Sur la vodka?
Non.
Ah, oui.
Oui, cherchez un peu le contexte.
Sur le, bah,
sur le, ouais. Bah, tsar, c'était quoi? C'était au 19e siècle?
Sur le Malibu.
On va continuer sur les chapkas.
C'était visuel, ouais.
Sur des fringues?
Pas les fringues.
Sur les bâtiments?
Sur une couleur?
Non. Sur les gens.
Sur les gens.
La moustache?
Presque.
Les rouflaquettes?
Presque.
La barbe?
La barbe. Il y avait un impôt pour avoir le droit de payer, de garder la barbe. Parce qu'en fait, lui, il avait changé de religion. Il était devenu chrétien, je crois. Et du coup, il fallait se raser. Et beaucoup de gens dans son pays ne voulaient pas se raser. Et du coup, il a fait « Ok, vous voulez pas vous raser, mais vous allez devoir payer un impôt. » On a 1 point pour Benjamin, 1 point pour Eleanor, 1 point et 2 points pour Ariel. Ariel, as-tu quelque chose à nous raconter?
Et bien sûr, si je retrouve mon truc qui s'est fermé, évidemment. Ah, mais oui, en plus, ça se passe en France cette fois-ci. À mon avis, tu connais peut-être.
Ok.
Toi, ouais.
Parce en que Ardèche.
Ouais.
C'est un complot sur toi.
Ouais. Non, c'est un truc des années 70 qui se racontait pas mal à la campagne et dans la nature. On pensait que le gouvernement parachutait quelque chose. Dans la nature.
Des extraterrestres?
Non.
Des spermes.
Qui parachutaient ça pendant longtemps.
Le gouvernement français parachutait des trucs dans la nature.
Ouais, dans les campagnes.
Est-ce que c'était un complot, on va dire, parce que j'ai peut-être une idée, mais un complot raciste?
Non.
D'accord, donc, parce que moi j'allais dire si c'était raciste, ils ont parachuté des étrangers, tu vois, dans les campagnes, pour les envahir, je sais pas.
C'est une réponse.
Ce serait hyper.
C'est une réponse famille marocaine dans une caisse.
La réponse est absolument campagnarde.
Des citadins?
Non, non.
Du pinard?
Non.
Pour qu'il soit bourré.
C'est un truc négatif ?
Bah, un peu oui. Bah, en fait, je pense que ça part pas d'un truc négatif, mais effectivement, la raison, c'est genre, hein, c'est pour faire des trucs de méchants, des trucs.
De la drogue ?
Des armes ?
Non.
Des trucs de méchants ?
Enfin. Mais ce qui balançait en soi, ce qui balançait, c'est pas forcément négatif ou positif. C'est... Mais après, c'est pour dire, hein, il balance ça pour faire ça.
Il balançait des graines.
Non.
Non.
Des poupées gonflables. Pour exciter les paysans et les chasseurs.
J'aurais pensé que tu l'aurais su, quoi.
Non, non, ça me dit rien, vraiment pas.
Des et... POG.
Ah, c'est un truc de campagnard.
Et ben je vais vous le dire, ils pensaient qu'on balançait des vipères, qu'on parachutait des vipères. T'as jamais entendu ça ?
Non. Attends, on parachute des vipères, genre c'était des petites vipères avec un mini parachute. Ah, c'est trop mignon.
Je relis que c'était dans des caisses ou des sacs. Alors, faut qu'à un moment le sac ou la caisse s'ouvre parce que sinon c'est juste.
La caisse se casse, en sol et la vipère elle sort. Ouais.
Et en fait, ils pensaient que c'était les laboratoires pharmaceutiques qui introduisaient les vipères afin d'augmenter la production et la vente d'antivenins.
L'aspivenin, c'est. Ouais.
Non,
c'est
tu sais, tu pourrais penser, tu sais, pour réguler un peu la flore, de machin.
C'est un complot qui ne sert à rien.
Oui.
Tu sais, en plus, t'as un avion, tu dois balancer des caisses remplies de vipères, j'imagine. Tu vois,
genre, tu peux y aller en voiture.
Et surtout.
Tu ouvres ta voiture et les vipères, elles sortent.
Surtout, assez logiquement, tu balances une vipère d'un avion à haute altitude, la vipère. Qui s'est pas volé, t'as quand même de grandes chances qu'elle meure quand même quand elle atterrisse au sol, quoi.
Ouais.
Donc,
Les petits parachutes.
Ah oui, les petits, oui, c'est vrai, les petits parachutes.
Ouais. Ok, très bien.
Trop dit que tu le savais.
Ah non, pas du tout, j'étais pas au courant des vipères. Voilà. Bon, allez, on reprend. Un point pour Eleanor, un point pour Benjamin, deux points pour Ariel. C'est parti. Lorsque les frères Lumière ont fait la première présentation du cinéma, du projecteur cinématographique, en diffusant le tout premier film, combien ont-ils gagné avec les entrées ?
Oh là là.
20 francs.
Et je crois plus. Ils ont pas perdu.
100 francs. C'est moins.
50.
C'est moins.
70.
70.
50. 45.
80.
Moins.
30. 43.
Moins.
32.
Moins.
41.
33. 33 francs. Il y avait 33 personnes à 1 franc, dont Méliès. 33 francs à peu près.
Mais attends. Ils ont... Ouais, attends. Là, c'est trop...
Ancien franc en plus.
Non, mais tu comptes pas le prix du stand de...
Ça n'existait pas la nourriture à l'époque.
Donc non, le prix
popcorn.
Du...
Ah, il y avait
mais
un
non,
menu manga.
Mais non, c'était dans une fête foraine, le prix du stand.
Non, non, c'était dans un cinéma.
Ouais. Ah, c'était pas dans une fête foraine, le premier cinéma.
C'était pas vraiment un cinéma, j'imagine.
C'était une salle.
Oui, enfin, c'était une salle souterraine, un truc où il y avait des spectacles.
Dans une morgue.
Ah ouais.
Comme ça, tu pouvais faire les deux, tu vois.
Bah, la location de la salle.
Et tu pouvais visiter la morgue.
En famille.
Non, mais oui, avec les entrées, j'ai dit. Combien ont-ils gagné avec les entrées ?
Après, avec les goodies, ils ont peut-être gagné plus. Hein,
ouais,
les porte-clés, les posters.
Savez pourquoi le train entrant en gare de la Ciotat a fait peur aux gens, etc.
Ils ont cru qu'il allait sortir de l'écran.
Oui, mais pourquoi filmer ça ?
Ah, parce que...
En mouvement, c'est du mouvement, non ?
Oui, mais il y avait... En fait...
Il n'y avait pas l'histoire du train à Gare de Lyon qui avait déraillé.
Montparnasse.
Ah ouais.
Vous avez vu le film
de
La gare
Hugo Cabret.
Hugo Cabret.
Ah ouais. Oui.
En fait, ils ont repris une histoire vraie, c'est qu'à la gare Montparnasse, il y a un train qui n'a pas pu s'arrêter et la gare Montparnasse est en hauteur et il y avait une baie vitrée et le train a traversé la baie vitrée et a failli s'écraser dans la rue. Ils ont fait des photos.
Écrasé.
Non, non. Il est resté suspendu.
Comme dans les films d'action, quoi.
Ouais, ils en ont vraiment chié d'ailleurs pour la faire descendre la locomotive avec des grues, avec des trucs. Enfin voilà. Et en fait, il y a eu plein de photos et la France a été traumatisée de voir ce train qui a failli écraser les gens et qui a traversé une vitre.
Ah.
Et du coup, à l'époque, les gens avaient peur des trains qui les écrasent. Et donc, les frères Lumière, a priori, ont utilisé ce truc-là lorsqu'ils ont fait le...
Enfin, dans la director's cut. Hein. Oui. Sinon, ça a été censuré normalement.
Bien sûr.
Et je pense qu'aujourd'hui, encore, les gens ont peur que les trains les écrasent. Moi, par exemple, j'ai peur qu'un train m'écrase. sur des rails, tu vois.
Moi aussi, j'ai...
Mais devant un film, non, ça va.
Quand je vois un film qui a un truc qui arrive devant l'écran, même en 3D avec des lunettes, je me dis pas, je vais mourir.
N'empêche, toi, t'as jamais vu l'arrivée du train en gare de la Ciotat.
Ça se trouve, tu vas aller sur YouTube, après, tu vas hurler.
Ils avaient eu les lunettes 3D à l'époque, en 1980. À 15, les mecs, ils ont fait des arrêts cardiaques. Mais
ma mère, avec un casque de réalité virtuelle, que je la fais descendre avec le requin dans la cage sur la PlayStation 4, là, ma mère a hurlé. Je l'ai vu donner des coups de pied dans le vide et tout ça, elle avait peur du requin. Donc.
C'est plutôt bien fait, je l'ai fait. C'est bien fait.
Allez, la dernière question. Si Eleanor a un point, c'est moi qui vous raconte une honte de mon enfance.
Sinon, c'est moi ?
Sinon, c'est toi. Pourquoi la bouteille de Coca-Cola en verre a-t-elle cette forme étrange ?
Parce que c'est sensuel.
Non.
C'est un médicament ?
Alors, oui, le coca à la base c'est un médicament.
C'est pas coca qui est le premier à avoir eu l'idée de faire ses propres bouteilles de sa propre forme.
Si.
Est-ce que pour c'est... que...
Pourquoi ?
Pour qu'on la reconnaisse sans la marque, sans...
Ah oui, on y est presque.
Ah ?
Pour qu'on
les consignes.
Ouais, c'est ça, mais pour qu'on la reconnaisse sans la marque.
D'accord.
Bah pour que quand on censure la marque, genre dans les films, etc., et bah on reconnaisse quand même
c'est
la...
pas pour ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de film, parce que ça date vraiment de avant le cinéma. Mais oui, non, mais elle a le point. Elle a le point. En fait, le créateur de Coca-Cola a dit je veux que ma bouteille soit reconnue dans le noir ou cassée au sol.
Ah.
À l'époque, il n'y avait pas de frigo, ça n'existait pas. Et quand on allait acheter son soda, on allait chez le marchand. Et en fait, il y avait des grands bacs remplis de glace et tu mettais ta main dans la glace et tu sortais une bouteille. Toutes les bouteilles avaient la même forme. Donc, tu pouvais te ressortir avec du Pepsi-Cola, enfin, n'importe quoi. Et donc, Coca a eu l'idée de changer la forme de la bouteille. Comme ça, les gens allaient chercher, ils fouillaient. Et quand ils tombaient sur une bouteille qui avait une forme, ils ne la voyaient pas. Ça, c'est du Coca. Et donc, je vais boire mon Coca.
Malin. John Coca. L'inventeur de Coca-Cola.
Pemberton. Je ne me rappelle plus son nom. Bon, en tout cas, bravo. 2 points tout le monde. Voilà. Donc je viens de l'Ardèche.
Et voilà, c'est tout.
Et en Ardèche, on avait peu de gens de couleur. Voilà. Et un jour, j'ai dit à ma mère qui s'est retrouvée gênée parce que j'étais vraiment très petit. J'ai dit, maman, pourquoi ces gens sont noirs? Et ma mère, ne sachant pas quoi répondre, m'a dit ils ont mangé trop de chocolat. Et un jour, on se retrouve dans une supérette dans un village et il y a une dame noire et je me suis mis à hurler maman, la dame elle a mangé trop de chocolat, la dame elle a mangé trop de chocolat. En la pointant du doigt, ma mère m'a pris et on est parti de la supérette et ma mère m'a dit tu dis plus jamais ça. Et j'ai dit, mais c'est toi qui me l'as dit.
Oui. Oh
là et là. Après elle m'a expliqué. Les ethnies, finalement, les différents pays, tout ça. Donc, ne mentez pas à vos enfants.
Mais pourquoi, sur la première fois que tu as demandé ça, t'es genre la paniquée, elle a inventé...
Je sais pas. Je pense qu'elle a pas dû savoir quoi me répondre. Pourquoi les gens sont noirs?
Ouais. En plus, on était quoi dans les années 70? C'est vrai que...
Années 70, ouais.
C'était rare, encore.
En Ardèche, crois-moi, c'était très, très rare. Ouais. Et j'avais raconté cette histoire. Elle aurait pas dû, quoi. Mais après, enfant, tu répètes et tu hurles.
Ouais,
J'avais un prof au Beaux-Arts qui nous avait raconté que la première fois qu'il a vu un noir petit, il a pleuré.
Ça, c'est autre chose. Ouais.
Ça, c'est autre chose. Mais...
Il y a beaucoup comme de Nietzsche quand il a vu. Comme ça, d'enfants qui ont peur.
Quand tu rencontres quelqu'un d'un autre pays qui n'est pas de la couleur que tu as l'habitude de voir, oui, ça surprend. Ouais. Aujourd'hui, avec la télé, un peu moins. Mais je pense qu'à une certaine époque, quand des mecs arrivaient en bateau et qu'ils avaient une couleur chelou, tu faisais... D'où ils viennent, eux.
Ouais.
Bonsoir et bienvenue dans ce podcast sociétal.
Bienvenue sur CNews, le podcast. voilà. Allez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière d'Histoire en Rire. On n'espère pas la dernière. J'espère que vous êtes beaucoup à écouter et qu'on pourra en refaire d'autres. Voilà, des bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.